Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr.
C'est parti pour une nouvelle chronique ouvrière. Aujourd'hui, on va parler de la grève de la thune. Mais quel nom intrigant !
Il s'agit en fait de la dénomination de la première grève nationale dans les chemins de fer qui s'est déroulée en 1910.
Mais d'où vient ce nom ?
On connaît les expressions « avoir ou ne pas avoir de thune »,« travailler pour de la thune », mais quelle est son origine ? D'abord, le mot s'écrit « thunes ». Un mot à la consonance plutôt argotique, nous direz-vous. Pourtant, il est utilisé dans le langage usuel depuis fort longtemps. Son sens a d'ailleurs évolué au cours des siècles. Jusqu'au XVIIe siècle, on associe à l'aumône. Pourtant, on retrouve la trace du mot dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Tout d'abord dans la racine tutina, dérivée elle-même du latin tutari, qui signifie se défendre, se prémunir du danger, de la faim et du froid. Le terme moderne réapparaît en 1837 avec la création d'une monnaie, la thune, d'une valeur de 5 francs. Thune qui existe toujours en Suisse, pays où, paraît-il, les thunes poussent dans les banques.
Mais quel est le rapport avec la première grève nationale des chemins de fer en 1910, appelée la grève de la thune ?
Cette grève s'engage sur deux revendications. D'une part le salaire et d'autre part la mise en place d'une retraite pour les cheminots. Voilà, on touche au but. Les cheminots revendiquent la mise en place d'un salaire minimum journalier à hauteur d'une thune, soit une pièce de 5 francs équivalent à 100 sous. La thune pour tous. Tel est le mot d'ordre unificateur qui sera moqué par les dominants, pour eux les nantis et motifs de la grève.
Mais à part la thune, il existe d'autres expressions populaires qui qualifient l'argent. Le vocabulaire est assez riche, imagé et fluctuant, comme si employer directement le mot « argent » en soi était sale, impoli ou irrespectueux. D'abord, on parle de « pognon », dérivé d'une poignée de sous. Le plus connu, hein, c'est le terme, mais aussi d'une « cig », une pièce de 20 francs or, de « sac », S.A.C. comme un sac, équivalent à 1000 francs. On connaît la brique, équivalent d'un million de centimes, référence tout ça au bâtiment. Bref, pour désigner le fric, on utilise des termes liés au quotidien du travailleur agricole avec le blé, l'oseille ou la galette, aux voyages et aux provenances orientales comme le pèse ou le flouze, sans oublier celle des mauvais garçons qui parlent de grisby, de bifton. Le populo a ses expressions propres pour définir l'argent, le vrai, le seul, le palpable, bref, le liquide. Cette profusion de noms pour désigner l'argent était riche comme on le voit jusqu'en 68, où le peuple défilait sur le mot d'ordre « Pompidou, des sous » sur l'air des lampions, voire plus poétique sur l'air de « Il était un petit navire » et je me permets de vous la chanter « Il était un petit ministre, il était un petit ministre qui naviguait, gai, gai sur nos sous, qui naviguait, gai, gai sur nos sous. Ohé, 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 Pompidou, Pompidou navigue sur nos sous. » Et oui, la grève pouvait être un prolongement de l'enfance et surtout un moment de joie partagée, me disais-je ce lundi 13 mai 68 avec les copains, copines du lycée, en défilant de République à d'enfer Rochereau. Mais aujourd'hui, comment parle-t-on de l'argent ?
Comment parler d'une abstraction quand l'écart entre deux revenus des prolétaires dans le sens marxiste du terme et ceux des milliardaires sont à des années-lumière ? L'infini devient donc innommable. L'évolution de notre société financiarisée et informatisée, s'appuyant sur la dématérialisation monétaire, développant les règlements électroniques pour mieux couvrir les flux financiers, ont aussi rayé par leur abstraction le rapport physique avec la monnaie.
Alors comment nommer le vide, cet inconnu non mesurable ? Comment définir ce que l'on ne voit pas ni ne perçoit pas ?
Magnifique tour de passe-passe de la modernité libérale et technologique qui nous cache ainsi l'étendue de ces fortunes colossales irriguant dans un flux constant et caché les coffres-forts des paradis fiscaux. Et tout cela en toute illégalité. Tour de passe-passe non seulement moral et appauvrissant l'humanité. Ils glorifient le travail qu'ils ont pourtant délocalisé au moindre coût salarial. Mais c'est le pire. Ces mécanismes sont couverts par les banques, dissimulés par les médias des milliardaires, encouragés par ceux qui devraient le contrôler afin de nous protéger. François Ruffin, dans une anecdote, vous invite à compter jusqu'à 3.
Je vais faire ça avec vos auditeurs, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent compter avec moi, dans leur voiture, dans leur salle de bain, jusqu'à 3? 1, 2,
3.
3.
Ouais.
10 000 euros pour Jeff Bezos. Et pendant ce temps-là, ma suppléante, elle est accompagnante d'enfants en situation de handicap dans les écoles. Ça veut dire que là, pendant les 3 secondes qui viennent de se passer, Jeff Bezos, il s'est pris autant que Hayat, mon accompagnante d'enfants en situation de handicap, ma suppléante, en un an. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire en haut à un gavage gigantesque. C'est un festin. Les dividendes du CAC 40 n'ont jamais été aussi élevés. C'est un record, c'est plus 60% par rapport au précédent record. Les patrons du CAC 40, ils se sont fait le double de paye par rapport à l'année dernière. 440 fois le SMIC. En un mandat de Macron, les 5 premières fortunes françaises ont vu leur patrimoine tripler. Voilà, en haut, on a affaire à un gavage, c'est le festin. Et la question, c'est comment on va répartir les miettes aujourd'hui. Les miettes, comment on va donner un petit peu aux retraites et puis un petit peu aux automobiles.
Donc ce gouvernement, c'est avant tout le gouvernement du CAC 40, quoi.
C'est l'évidence. En un an, il y a eu plus 5% d'inflation. Or, les salaires, ils ont pris 1,7%. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est l'UFC Que Choisir qui énonce ça, un ménage français a perdu 2000 euros de pouvoir d'achat en un an.
En effet, comment donner un nom à ce qui creuse notre malheur ? Rien que cela justifie la résistance. À l'image de la grève de la thune victorieuse en 1910, les cheminots se battent de nos jours, certes pour eux, leur pouvoir d'achat et leurs conditions de travail. Et surtout, ils se battent contre le démantèlement de ce service public, donc pour nous. Nous serons à Paris et dans toute la France le 21 janvier pour défendre nos retraites. Un petit peu de détente.
Mets le thune dans le bastring, histoire d'ouvrir le bal, pose ton cafard sur le zinc, t'auras du bonheur pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre. T'occupe pas du ménage, du moment que ça te remue, laisse tourner l'engrenage, et si tu veux vraiment que ça continue, mets le thune dans le bastringue, et si t'es pas sourdingue, t'auras du carnaval pour tes 10 balles. Et comme ça, je soliloque quand mes souvenirs me provoquent. Mets le thune dans le bastringue, histoire d'ouvrir le bal, pose ton cafard sur le zinc, t'auras du bonheur pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre. T'occupe pas du ménage, du moment que ça te remue, laisse tourner l'engrenage, et si tu veux vraiment que ça continue, mets le thune dans le bastringue, et si t'es pas sourdingue, t'auras du carnaval pour tes 10 balles. Mais je ne possédais qu'une pièce de 100 sous, et venais les couler dans le bussophone saoulé par les gros sous. Contre un peu de gaieté, que l'appareil plein d'argent pouvait bien me donner, même pour 5 francs. Comme je n'ai jamais mis que ma thune dans le fourbi, la fameuse mécanique n'aurait jamais dû me vendre sa musique. Pourtant il y avait sûrement un cœur dans l'instrument qui s'est mis à jouer comme si le compte y était. Paraît qu'encore maintenant il choisit ses clients et t'envoie de l'Orphéon pour pas un rond.
Popularisé par une chanson, mets de thune dans le bastringue, chanson enregistrée et composée en 1954 par Jean Constantin, de 1923 à 1997. Parmi ces chansons, vous devez connaître Mon manège à moi, interprété par Édith Piaf, ou Mon truc en plume, chanté par Zizi Jeanmaire. Il composa aussi de nombreuses musiques de films.
Alors, la grève de la thune en octobre 1910.
Revenons au déroulé de cette grève. le congrès du syndicat national des travailleurs des chemins de fer d'avril 1910 vote le principe d'une grève et constitue un comité de grève. À l'époque, il n'y a pas de SNCF. Elle verra le jour en 1937, au moment du Front populaire. Le réseau ferré français métropolitain et colonial est entre les mains d'opérateurs privés, plusieurs dizaines exploitant des lignes sur des tronçons plus ou moins longs. La main-d'œuvre est recherchée dans la classe ouvrière. L'embauche dans les chemins de fer est synonyme d'ascension sociale et de sécurité de l'emploi. On pense à La Bête humaine, le roman d'Émile Zola, publié en 1890 et immortalisé par Jean Gabin et Salaison, nom de la locomotive, dans le film de 1938 réalisé par Jean Renoir.
Si la grève est votée au Congrès national du Syndicat national des travailleurs des chemins de fer d'avril 1910, elle ne se déclenche que plus tard.
En effet, son succès dépend de l'attitude d'un autre syndicat, la Fédération des mécaniciens et chauffeurs. Celui-ci est radicalisé et permet un rapprochement de vues entre les deux fédérations. Le comité de grève se voit confier la mission de choisir le moment propice pour lancer le mouvement. Le calendrier de la grève.
Le 8 octobre 1910, une cessation de travail des ouvriers du dépôt de La Chapelle, du réseau Paris-Nord, va déclencher le mouvement. Le 10 octobre, les cheminots de tous les réseaux décident de la grève. Les électriciens, les gaziers, les employés du téléphone cessent progressivement leur activité pour soutenir les cheminots qui se croisent déjà les bras sur tout le réseau ou presque. La grève touche tous ces réseaux de l'État, du Nord et du Midi. L'attraction, le personnel des gares sont en première ligne et bloquent ainsi tout le trafic, déclenchant ainsi la première grande grève cheminote de l'histoire. Les affrontements entre grévistes et non-grévistes sont particulièrement violents. Un ouvrier, Serfrin, non-gréviste, a été tué par ses collègues à Cormeil-en-Parisis. Le 13 octobre, le président du Conseil, Aristide Briand, demande à la troupe d'occuper les installations ferroviaires pour 21 jours. Le régiment du 5e Régénie de Versailles est en première ligne. Cette unité spécialisée dans les chemins de fer possède les compétences pour se substituer aux grévistes. Le 18 octobre, le mouvement est brisé. Réquisition militaire de 15 000 cheminots. La reprise du travail est votée. Elle sera effective le lendemain.
La grève révèle l'importance du chemin de fer à prise dans la vie du pays, tout en provoquant déjà la grogne des banlieusards parisiens, grogne déjà utilisée par le pouvoir contre la grève. Pour la première fois, les cheminots ont marqué leur unité et défilé dans tout le pays au cri de « c'est la thune qu'il nous faut » et pour l'obtention d'une retraite. À l'avenir, afin d'obtenir les mêmes droits, ce combat servira de modèle pour les luttes d'autres secteurs industriels et agricoles. Voilà ce qu'on appelle les privilégiés, en jargon capitalistique. Celui de demander les moyens de vivre dignement de son labeur et assurer ses vieux jours par une retraite décente. Bien que fortement réprimée, la grève de la thune sera néanmoins victorieuse. En 1911, il y aura une signature d'un accord sur l'augmentation des salaires et l'obtention d'un règlement des retraites pour ce secteur. Il faudra attendre encore 20 ans pour avancer un accord national sur la question des retraites en France. La popularité des revendications du mouvement porté par les cheminots justifiera pour le gouvernement la répression de peur d'un risque de généralisation du conflit à d'autres catégories de travailleurs.
Grève de la thune, la répression.
En effet, la grève qui prend fin tourne mal. On compte de nombreux cas de sabotage sur toute la France. L'influence anarchiste et la popularité de l'action directe y est fort. La troupe découvrira même des bombes posées sur les voies, comme à Reuilly ou à la gare des chantiers de Versailles. Les meneurs sont arrêtés et sévèrement condamnés. Parmi eux, Georges Gamard, Albert Lemoine, Yves Bidamant et bien d'autres anonymes, plus de 1000 qui furent révoqués.
Mais qui était Aristide Briand ? Alors, né en 1862, mort en 1932, il est d'abord avocat, militant, journaliste et député socialiste, puis il entame une longue carrière ministérielle. Aristide Briand prenait au début de sa carrière politique la grève générale. Devenu président du Conseil, il est cette fois de l'autre côté de la barrière, celui des gouvernants. Le théoricien du Grand Soir devait, de son point de vue, préserver les intérêts vitaux du pays sous la pression de l'état-major des armées et ses notes alarmistes sur son incapacité à défendre le pays si la grève continuait.
À propos de la chronique ouvrière sur la grève de la thune, documentation.
Alors tout d'abord, les archives de la CGT. Les biographies sont tirées du Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social. Je signale que le Métron est accessible en ligne. Peut-être que vous y retrouverez des membres de votre famille, des amis et camarades de combat pour les droits sociaux. Bien sûr, un grand merci à François Ruffin et à sa démonstration pertinente et très pédagogique dans notre extrait vidéo. Enfin, les photos que vous pouvez voir sur le site de l'association pourquoipas.org. Ces photos sont tirées de l'ouvrage de Dan Steiner, « Le temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque ». Malheureusement, ce livre qui est édité chez Gallimard est épuisé. Voilà, c'était notre chronique ouvrière sur la grève de la thune.
Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr.